France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le sire de Quissot avait de Shinano emmené à sa suite deux belles femmes. Des deux, Tomoe par la blancheur de son teint, par sa longue chevelure, par ses traits réguliers, était en vérité la plus belle. D'une force et d'une adresse rares à l'arc, à cheval ou à pied, le sabre à la main, c'était une guerrière capable d'affronter démons ou dieux et qui seule valait 1000 hommes. Voici ce qu'on lit dans le dit des Haikei. Récit épique de la lutte entre les clans Minamoto et Taira dans le Japon féodal de la fin du XIIe siècle. Mais comment voir la superbe Tomoe Gozen? Depuis le XVIIe siècle, les estampes japonaises représentent des belles femmes. Entendez, des servantes de maisons de thé, des actrices, des courtisanes, mais aussi des femmes samouraïs. Et lorsqu'en 1845, la censure traque le sujet érotique dans la production d'estampes, le grand dessinateur Hiroshige doit ruser. Allons-y voir, et de près, car tout ici se joue dans la manière dont se noue un kimono ou dans la façon qu'a la neige de tomber. En suivant la guerrière Tomoe Gozen de l'estampe au manga, c'est-à-dire d'un média de masse à l'autre, on va parler de désir et de violence, bien sûr, mais aussi de rythme, de style, d'imitation et de ce jeu de miroir permanent entre le Japon et l'Occident, le japonisme et le néo-japonisme, l'art le plus raffiné et la culture populaire. Allons-y voir, en compagnie de Marie Houlès, de Jean-Christophe Hubert et de Michael Luken.
ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に盾つく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？
てめえは悪魔の息子かよ。まあいい。ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか。海賊に。だがいいか。俺には野望がある。世界一の剣豪になることだ。腹切って俺に詫びろ。
いいね、世界一の剣豪、海賊王の仲間ならそれくらいなってもらわないと俺が困る。
そうだな、船長と親友との約束があんだ。
Non mais je me trompe pas, c'est bien un épisode de One Piece hein, qu'on a entendu. Jean-Christophe Hubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, formé à l'université de Liège, et vous avez été commissaire de nombreuses expositions sur des sujets très variés, de Léonard de Vinci au pop art, en passant par Kissaring et Toulouse-Lautrec. Votre dernière exposition, Rêve de Japon, est présentée du 23 mars au 3 juillet 2025 à l'atelier Grognard, à Rueil-Malmaison, entre l'estampe, l'impressionnisme et l'art du manga. Parce que c'est votre méthode et votre passion d'ailleurs, hein, ces allers-retours entre la culture populaire et puis l'art plus raffiné, plus savant.
Oui, voilà, ce sont des expositions qui sont des portes de découvertes pour le visiteur. C'est un peu ça le but de nos créations, c'est de faire découvrir un monde et que les visiteurs soient émerveillés par.
Et il y a de quoi.
Il y a de quoi, vraiment. C'est, et en plus, ici, c'est un émerveillement silencieux. C'est toujours très amusant de regarder le comportement du visiteur. Ici, il y a vraiment un émerveillement face à ces estampes, à cet univers. Et donc, voilà, ça crée vraisemblablement des vocations ou envie d'aller plus loin à travers des livres ou d'autres découvertes.
Michael Luken, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'INALCO, l'un de nos très grands historiens du Japon, de son art. On vous doit de nombreux livres, depuis l'art du Japon au XXe siècle, paru chez Hermann en 2001, jusqu'à le Japon grec, culture et possession, paru chez Gallimard, dans la prestigieuse bibliothèque des histoires en 2019. Il a d'ailleurs obtenu le grand prix des rendez-vous de l'histoire de Blois et vous venez de diriger avec Sophie Bache un ouvrage sur le néo-japonisme 1945-1975. On y retrouve d'ailleurs une de ces notions que vous travaillez depuis longtemps en compagnie du philosophe Masakazu Nakai, c'est-à-dire la notion d'imitation hein, qui vous sert de guide. Et l'imitation ici, elle n'est pas servile, elle est pleinement créatrice.
Elle est pleinement créatrice et surtout, elle permet de rebondir pas simplement sur le même, l'identique, mais souvent elle ouvre sur des portes qu'on n'a pas forcément vues. Dans toute ma recherche, d'une certaine manière, consiste à regarder le Japon, mais au Japon, ne pas y voir le Japon. Mais
pas seulement en tout cas.
En tout cas, y voir, pourquoi pas, quelque chose de l'Allemagne, quelque chose de la France, quelque chose du monde grec, quelque chose des États-Unis.
Bonjour Marie Houlès.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art et tout récemment, vous avez soutenu à Sorbonne Université une thèse brillante sous la direction d'Antoine Gournet intitulée « La guerrière dans l'estampe japonaise des époques Edo et Meiji », donc 1603-1912. Ça vous passionne ce sujet? Pourquoi la guerrière?
C'est un sujet qui me passionne depuis toute petite. Je me revois regarder des mangas avec ces femmes qui se battent et me dire « Ah oui, c'est bien ça !»
Ouais, c'est bien.
Et au fur et à mesure, je me suis intéressée au Japon et j'y ai découvert un art qui m'était totalement inconnu jusque-là. Et peut-être vers mes 13-14 ans, j'ai commencé à regarder les estampes, mais vraiment les regarder. Et je me suis prise d'amour pour cet art et plus particulièrement pour les guerrières.
Alors, comme vous êtes pris d'amour pour cet art, on vous a dit, bah, allez, choisissez votre image, celle qui va nous arrêter pour commencer. Et puis, bah, voilà, c'est celle que j'ai commencé un peu à décrire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pourriez en dire de cette magnifique guerrière sous la neige, Tomoe?
Je vais d'abord la présenter. Oui. C'est une estampe de d'Utagawa Hiroshige.
Qui est surtout connue pour ses paysages. Hein.
Voilà, qui est principalement connue pour ses paysages. Donc c'est vrai que j'avais envie un petit peu de montrer qu'il y avait autre chose chez Hiroshige. Elle est datée de 1845-48. En fait, elle est créée pendant une période très particulière de la culture artistique japonaise. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de grande interdiction pour les artistes. Qui, à ce moment-là.
Interdiction des sujets érotiques.
Voilà. Ou qui peuvent, en tout cas, mener à l'érotisme, tels que les portraits d'acteurs ou, comme vous les avez cités tout à l'heure, les belles femmes. Et pour moi, cette image, elle est vraiment un peu tout. C'est-à-dire qu'elle est à la fois dans les codes et elle essaie de briser les tabous, puisque nous sommes face à un vrai portrait de guerrière. Nous avons la guerrière cavalière.
Cheveux détachés, kimono, elle n'a pas, d'ailleurs, elle est habillée quand même comme une courtisane, davantage que comme une guerrière. Elle n'est pas,
voilà.
Elle n'est pas en combattante, elle n'est pas en armure. Il neige, qu'est-ce que vous voyez, Michael Luken, on l'a sous les yeux, toutes et tous, cette image.
Alors, on a ce kimono qui se plie et qui se replie, qui laisse dévoiler un tout petit sabot au bout de pied.
Sous le sabot, il y a un seau qui est peut-être, justement, vous le dites, Marie Houlès, le seau du censeur, hein, c'est bien ça?
Oui, oui, oui. Sous le sabot du cheval, en effet, nous avons un seau de censeur qui aide particulièrement les chercheurs à dater beaucoup plus précisément les estampes, puisque nous sommes très renseignés sur l'utilisation de ces seaux. Et donc, c'est comme ça que nous pouvons beaucoup plus précisément datée, celle-ci en tout cas, de à peu près 1845 à 1848.
Jean-Christophe Hubert, qu'est-ce que vous voyez? Il y a la neige aussi, évidemment.
Ouais, c'est la neige, forcément. Oui. Cet effet de météo, hein, qui est cher à Hiroshige, à Hokusai également. Vraiment une composition magnifique, hein, tout en diagonale également. Et puis, ce jeu de couleurs, hein, qui est vraiment fabuleux, puisqu'on a ce noir du cheval, cette grisaille, cette blancheur de la neige, et alors ce kimono qui est totalement magnifique avec ses jeux, effectivement, de plis, de replis, et ses motifs qui se déplient, c'est vraiment superbe.
Alors il faut dire, Michael Luquen, que pendant très longtemps, l'estampe a été monochrome, et puis ensuite jaune et verte, etc. Et c'est depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle qu'elle est pleinement polychrome, comme celle que l'on voit ici.
Absolument, pleinement polychrome. Et il ne faut pas oublier non plus d'ajouter ce qui souvent est un peu ignoré, ou en tout cas moins compris par les personnes qui n'ont pas accès, même d'une certaine manière les Japonais d'aujourd'hui, à ce qui est écrit.
Ah bah parce oui, il y a des textes.
Il y a des textes tout autour qui font écho à ce qui est représenté.
Alors l'un est un poème de l'empereur Kuko, qui a régné pendant le 9e siècle, et il dit ceci, ça je le lis dans votre thèse, hein, Marie Oulès, c'est pour vous que dans la lande printanière, je vais cueillant de jeunes pousses, cependant que sur mes manches tombent des flocons de neige. Donc là, on est dans cette grande poésie impériale qui est celle de la nature et du combat en même temps, Michael Luquen.
Oui, absolument. C'est un poème donc qui est tiré du Hyakunin Nishu, c'est-à-dire d'un très fameux recueil de poésie. Il y a donc un jeu, mais il est quand même bien précisé que c'est avec le caractère qui précède que c'est à la manière de. Et donc il y a quelque chose de parodique, il y a un jeu qui est caractéristique de l'art des estampes.
Ça, c'est le grand texte. Et l'autre texte, celui que l'on retrouve à gauche au niveau de la tête du cheval, c'est un résumé de l'épisode de la fuite d'Awazu. C'est-à-dire que là, on est donc dans les années 1185, hein, c'est ça. L'épisode historique, enfin très vite devenu mythique, de cette Tomoe Gozen. Est-ce que vous pouvez la raconter, Marie Oulès?
Oui, avec grand plaisir. Nous sommes en février 1184. Kiso no Yoshinaka, qui a pris le pouvoir à Kyoto, est acculé par son cousin, Minamoto no Yoshitsune. Dans les plaines d'Awazu. Il ne reste plus que 7 combattants, dont Tomoe, autour de Kiso no Yoshinaka. Et Yoshinaka, voyant arriver sa fin, se tourne vers Tomoe et lui dit « Je suis un homme, je ne peux pas mourir avec une femme à mes côtés. » Tomoe, bien sûr très vexé, essaie évidemment de se rebeller. Pour une fois dans sa vie, elle veut servir son maître jusqu'au bout. Mais Yoshinaka n'en démord pas et dit « Je ne veux pas le déshonneur de mourir aux côtés d'une femme. » Donc, Tomoe, très vexé, s'en va et dit « Si tout de même je pouvais prouver une dernière fois ma force à mon maître qui va mourir dans les champs, j'en serais heureuse. » Et à ce moment-là, se dresse sur sa route un commandant ennemi qui, lui, voit l'opportunité d'abattre cette femme. Mais elle le saisit, appuie sa tête contre le pommeau de sa selle et le décapite avant de s'enfuir définitivement du champ de bataille pour rejoindre, d'après la légende, son pays natal, Shinano.
Alors cette légende, Michael Luquen, on la lit probablement dans ses grands récits épiques. Le dit du Heike, mais ensuite il y a une transmission orale, écrite, théâtrale, jusqu'au XVIIe siècle. Théâtrale, c'est important peut-être de le dire d'emblée, parce que au fond cette estampe, elle est très expressive, au fond.
Elle
ressemble davantage au fond au théâtre kabuki qu'au théâtre no. C'est une estampe pour le peuple.
Pour le peuple, peut-être pas complètement, une époque où quand même 80% de la population est paysanne et n'a pas accès à ce genre de choses, mais en tout cas pour la population urbaine, du petit peuple des villes, ou à une époque, donc le 17-18e siècle, où on a ces deux arts qui se développent en parallèle, d'une part le kabuki, d'autre part l'art de l'ukiyo-e, c'est-à-dire cette peinture qu'on connaît surtout sous la forme des estampes.
Et nous confondons en Occident l'estampe avec la grande peinture aristocratique, mais là, on est bien, et c'est ça qui est important, Jean-Christophe Hubert, dans un art qui est un art de grande diffusion, du fait d'ailleurs de sa technique. On peut dire un mot de la technique de l'estampe ?
Oui, il faut insister, parce que nous, c'est vrai qu'on le voit comme des œuvres d'art, mais quand on le regarde à cette époque, c'est effectivement quelque chose qui était extrêmement diffusé. On en retrouve d'ailleurs des estampes pour en avoir eu entre les mains, avec du papier réutilisé par l'imprimeur, avec des conseils de santé à l'arrière. Donc on voit vraiment que c'était des choses qui étaient parfois diffusées très largement. Les qualités variaient également dans les différents tirages. Alors, il faut savoir aussi que ce sont des œuvres qui font appel à une équipe. Il ne faut pas imaginer que Hiroshige est graveur, imprimeur, éditeur.
Non, il y a un autre
dans
éditeur.
Il y a vraiment, le point de départ est souvent un éditeur, puis on a le dessinateur, Hiroshige en l'occurrence, qui fait ce dessin, et puis ce dessin est transféré sur une plaque, généralement du cerisier sauvage, à l'aide d'un papier extrêmement fin, qui est mis à l'envers, un papier vraisemblablement en mûrier, à base de mûrier. Et donc intervient ensuite la deuxième étape, qui est le graveur, qui doit faire une taille d'épargne, donc c'est-à-dire garder le dessin, creuser.
C'est pour ça qu'on dit que le trait est épargné.
Exactement, en fait. Voilà. Oui. C'est l'encre va venir en surface, va venir vraiment sur le dessin. C'est pas comme une gravure sur cuivre où l'encre va venir dans les sillons dessinés lors de la gravure. Ici, c'est l'inverse. Et puis alors, il y a toutes les étapes de couleur, de plaques de couleur, de l'impression, et puis alors toutes les étapes de commercialisation, alors, à la fois dans des boutiques, via même des colporteurs.
Et cette image dans l'exposition Rêve de Japon que vous donnez en ce moment à Rueil-Malmaison, évidemment, il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, c'est pas un exemple isolé.
Non, c'est pas du tout un exemple isolé. Alors, on n'a pas cette estampe dans l'exposition. On a d'autres, ouais. Voilà, on a d'autres hiérogiques, on a d'autres guerriers aussi. Et l'exposition veut aussi montrer l'estampe qui a été utilisée aussi par le Japon pour se faire connaître à la suite de cette volonté d'ouverture. Et donc, on fait aussi un parallèle entre les estampes et les objets. On a fait appel à de nombreux collectionneurs pour montrer effectivement que ces objets que l'on voit dans ces estampes, c'est des objets de la vie quotidienne à l'époque Edo.
Cette estampe, elle est très belle. C'est pour ça que vous l'avez choisie, Marie Houlès. Mais en même temps, en lisant votre thèse, on comprend qu'elle n'est pas totalement exceptionnelle. Tomoe, c'est évidemment la plus célèbre des guerrières, mais il y en a d'autres et elles sont, et c'est un étonnement quand on vous lit, effectivement très représentées à partir, disons, de la fin du XVIIe siècle, ces guerrières samouraïs.
Oui, en effet. Tomoe, comme vous l'avez justement dit, est vraiment la plus connue. Mais en faisant mes recherches, j'ai pu tirer au moins une quarantaine de noms et de femmes qui ont été représentées. Et encore, je pense qu'il en reste encore beaucoup. Je pense notamment à l'impératrice Jingu, qui est aussi une femme très représentée, Shizuka Gozen, donc qui est une contemporaine de Tomoe Gozen, ou encore Hangaku Jo. Briser son autre à sa langue coupée, mis en carité par de rêves d'amour bercé. Quoi qu'encore, Pimi, vers toi s'envole ma pensée. Quoi qu'encore, Pimi, Zokizonou, dans le ma tendresse, yo me tombo, tu règnes seul, ô ma maîtresse. Je te veux.
Camille Saint-Saëns, la princesse jaune, on est en 1872. Et pendant ce temps-là, au Japon, Michael Luken, en 1872, justement, là, on a passé cette période de censure des motifs érotiques qui oblige notre dessinateur à ruser un peu avec les codes. Et la guerrière est toujours pleinement un sujet pour les estampes.
Alors, on en trouve, hein, c'est vrai, mais d'une part, la censure, elle va se réinventer sous d'autres formes. Hein. On n'a pas une explosion de gravures érotiques à partir de Meiji, puisque sous l'influence occidentale, il y a quand même une normalisation des mœurs. On sait très bien que c'est quelque chose qui va plutôt avoir tendance à disparaître, hein, les estampes érotiques, même si elles ne vont pas disparaître complètement. Quant au thème de la guerrière, elle va quand même être, je dirais, ce thème va être remplacé plutôt par le thème de la bonne épouse. Donc on est un autre imaginaire qui se met en place au moment de la construction de l'État-nation.
Et d'ailleurs, cet imaginaire de la bonne épouse, de la servante, de la servante de la maison de thé, c'est plutôt ça qui va intéresser l'œil occidental.
L'œil occidental en 1872, c'est exactement la date, puisque c'est l'année où apparaît ce mot japonisme, hein, dans la bouche de Castagnari d'abord, hein, comme l'a bien montré Sophie Bache, puis ensuite repris par Burti, avec la fortune qu'on lui connaît.
Et à ce moment-là, Jean-Christophe Hubert, vous le montrez d'ailleurs dans votre exposition « Rêve de Japon », il y a ces estampes qui circulent beaucoup en Europe. Il y a des collectionneurs, il y a aussi des amateurs, et il y a des peintres pour les regarder. Plus tard, Toulouse-Lautrec, tout ça évidemment rentre en résonance.
Ah oui, ça rentre en résonance et on fait le parallèle très évident dans l'exposition. Et puis il y a toutes ces revues aussi que ces artistes compulsent avec toutes ces reproductions. Ils les collectionnent, hein, Claude Monet, Toulouse-Lautrec, Degas et Vincent Van Gogh par exemple, avec des fortunes d'ailleurs diverses les uns des autres. Et alors on voit effectivement que ces sujets qui sont représentés dans l'exposition, on parle essentiellement de paysages, mais la soudaineté, ce rôle de la météo, des conditions météo, du vent, de la pluie, qui sont traitées magnifiquement par Hiroshige, ses compositions également, on va vraiment voir ces schémas reproduits vraiment de manière presque répétitive chez ces artistes comme Toulouse-Lautrec ou Degas par exemple.
Mais quand même, je vous attiriez notre œil, Michael Luken, sur le kimono, la manière dont il est noué et tout, évidemment, fait sens sous le pinceau, enfin sous le crayon plutôt de Hiroshige. Là, l'image que l'on voit, eh bien, d'une certaine manière, elle joue avec ses codes, parce que le kimono n'est assurément pas celui d'une combattante.
D'une combattante, on est bien d'accord. On a, quand on regarde le travail remarquable qu'a fait Marie Houlès, on voit bien dans l'iconographie à la fin que beaucoup de ces femmes guerrières sont, puisque c'est le genre qui le veut, en mouvement. Et qui dit mouvement dit kimono qui flotte. Hein. Mm. Kimono qui flotte dit jambes qui se dévoilent.
C'est le cas ici d'ailleurs, on voit son pied dénudé.
Voilà, on l'aperçoit, ouais. Des fois ça monte un petit peu plus. Mm. Donc on est bien évidemment aussi dans, et c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, dans un contexte de détournement d'une censure et la dimension érotique, le cheval, le sabre, bon, tout ça ne fait pas...
Mais il y a d'autres images, oui bien sûr, mais il y a d'autres images, Marie Houlès, que vous décrivez dans votre thèse, où là la combattante est plus active, elle est plus directement convaincante, je dirais, par son armement, et on peut aussi, comme vous le suggériez, la mettre en rapport avec d'autres personnages historiques, et puis aussi un rôle que les guerrières samouraïs ont eu. C'est pas simplement des personnages de romans, c'est pas simplement une mythologie, hein, ça a vraiment existé.
Oui, il y a, en tout cas, il était courant pour les femmes de bushi, donc de guerriers, d'être entraînées aux armes afin de défendre la maison. Et une fois que le mari était parti en guerre, mais les femmes représentaient, elles, par exemple Tomoe que nous avons ici, il y a toujours un flou entre la légende et la vérité historique. Est-ce que les femmes ont réellement porté l'armure et sont vraiment allées sur le champ de bataille ? Pour l'instant, nous n'avons pas encore les réponses, mais en tout cas, dans les représentations, ce qui m'intéressait dans ma thèse, il y a beaucoup plus de représentations de Tomoe en armure que, comme nous la voyons ici, en kimono, où on a plutôt l'impression d'être face à une courtisane. Non, d'habitude, elle est plutôt habillée comme un homme, presque travestie, mais sans pour autant que cela atteigne sa féminité, puisque nous avons toujours, évidemment, ce très beau visage, comme ici, le visage très fin, avec le teint pâle, les longs cheveux noirs, qui sont très souvent soit
détachés. Couronnés de fleurs, d'ailleurs.
Et ici, oui, couronnés de fleurs, ce qui est quand même très peu pratique pour la bataille. Mais nous avons tout de même ce que nous appelons le hachimaki, qui est ce bandeau blanc.
Oui, qu'elle qui a est là un bandeau de guerrière.
Voilà, qui est là un bandeau de guerrière qui permet en fait que la sueur soit absorbée et que les cheveux ne lui retombent pas sur le visage pendant qu'elle est en pleine action.
Alors on l'a évoqué un peu, il y a évidemment dans les estampes une splendeur arrêtée comme ici, mais le plus souvent également toute une narrativité, une manière sérielle et séquentielle de raconter une histoire, ou plutôt des histoires. Et c'est ce qui est intéressant, c'est d'essayer de le voir depuis, je dirais, l'œil exercé d'un dessinateur. Écoutez Johan Sfar, c'était au micro de Downtown sur France Inter en 2013.
Alors ça, si on aimait la musique, on serait heureux. Vu de la pente d'Akasaka, avec ses paolo... Je ne sais pas ce que c'est des paoloniens, hein. Je m'excuse, je suppose que ça ne vient pas de Pologne. Bon, on a au moins 4 ou 5 valeurs de noir. On a facilement une dizaine de valeurs du même bleu. On a un vert qui apparaît au milieu. Et on a des lignes de pluie qui sont droites comme des tranchants de rasoir, qui tombe sur toute l'image. Et dans un dixième de l'image, tout en bas, on a 5 personnages, 2 avec des ombrelles, 2 avec des chapeaux, 1 qui va dans une autre direction. Ça, c'est une musique. Ça, c'est rien d'autre qu'une musique. C'est rien d'autre qu'un jeu sur ce qui est vertical, sur des plans, sur... J'aime pas le mot de syntagme, mais quand même, une grande image qu'on voit de près. Et quand on s'en approche, moi j'adore quand on nous explique pendant des heures et des heures et des heures, avec une certaine hargne, qu'il n'existe aucune continuité entre le dessin de manga et le dessin d'estampe, et que même quand Hokusai faisait une suite de dessins qui s'appelait manga, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'aujourd'hui on appelle manga, bien entendu. N'empêche que ils ont des manières communes de faire jouer la comédie à leurs personnages, et quand ils racontent une histoire, ils la racontent, je sais pas, avec des codes humains que j'arrive à identifier. Alors peut-être que je me trompe. J'ai honte de dire ce que je vais dire, cette image on la voit mieux dans le catalogue qu'en vrai. Quand on la voit dans le catalogue, on mesure à quel point elle est complexe et à quel point ce qui s'y produit en matière de pluie ne relève de rien d'autre que de la musique. Et c'est pas la peine d'avoir la fêterie orientaliste, de se dire derrière ça il faut des instruments japonais. Ça c'est de la musique classique, en tout cas moi j'y connais rien à la musique classique, mais c'est ça que j'entends derrière. On se dit quel instrument pour ce bosquet d'arbres, quel instrument pour la pluie, quel instrument pour les 5 petits personnages qui cheminent en bas. Vous voyez le tableau, Pinacolatec, Hiroshige, estampe.
Manga, un mot composé des idéogrammes man, confus, sans suite et ga, dessin, donc des croquis rapides pris sur le vif. Et le manga, c'est Jean-Christophe Hubert, un terme qui est d'abord utilisé par Hokusai pour désigner ces petits carnets composés de dessins rapides, sans narration. Et puis ça va finir par, d'une certaine manière, désigner l'inverse, c'est-à-dire justement une manière de raconter des histoires avec des dessins.
Tout à fait. L'exposition Ruelle Malmaison commence avec ces mangas anciens d'Hokusai, ces premières éditions. On voit effectivement ces dessins en noir et blanc, petit format, reliés, avec ces dessins effectivement qui se suivent. Maintenant, il y a quand même des thématiques générales, hein, dans les paysages, dans les représentations du mont Fuji, dans les thématiques animalières, etc. Le terme manga, effectivement, s'est prolongé avec ici l'exposition. On montre effectivement les stars du manga, ces compositions aussi hein, qui rappellent un petit peu ces dessins noir et blanc, mais effectivement avec en plus une narration davantage structurée.
Et puis Hiroshige, on l'a dit, Michael Luken, c'est un des artistes japonais à qui on doit le plus de représentations de vent, de tempête, de brume, les jeux atmosphériques dont vous parliez, Marie Houlès, dans les 53 stations du Tokaido, donc une série d'estampes. Comment, au fond, vous comprenez, puisque depuis très longtemps, en fait, vous travaillez sur non seulement l'esthétique, mais la philosophie de l'art japonaise proprement dit, cette question de la sérialité, c'est-à-dire cette succession de vues qui font varier le motif et qui crée une forme propre de narrativité.
Oui, vous avez raison de mettre ça en évidence, parce que cette estampe que l'on voit ici, elle fait partie d'une série.
Oui, il faut la mettre en mouvement.
Il faut la mettre en mouvement et derrière, on a comme ça tout un ensemble de poèmes hein, qui chaque fois sont illustrés avec toujours un jeu qui va s'agir de décoder pour le lecteur. Et il va falloir d'abord reconnaître quel est le poème, quel est le héros et voir quelle
correspondance,
et souvent avec un effet drôlatique. Alors aujourd'hui, c'est assez difficile pour nous, et je dis pour les spécialistes, c'est vrai, mais c'est évidemment vrai pour les Japonais qui n'ont pas accès de manière rapide hein, à ce genre d'image, parce que la manière même, la graphie même, n'est plus une graphie qui est accessible au plus grand nombre. Mais donc, on a un effet de sérialité qui est absolument déterminant pour comprendre et qui est au cœur de l'art classique japonais.
Et cette sérialité, est-ce qu'elle peut être mise en rapport également avec d'autres formes artistiques? On avait parlé du kabuki, c'est-à-dire une manière, au fond, vous parliez d'imitation, une manière de reprendre le motif et de ne pas chercher à tout prix l'originalité, en somme.
Alors, c'est vrai que cette dimension-là, il y a un mot en japonais qui s'appelle le mitate. Et typiquement, cette série-là fait partie donc d'une série qui utilise ce processus du mitate, autrement dit de transposition d'un motif vers l'autre, souvent avec une dimension ludique, parodique, hein, et c'est quelque chose qui est absolument structurant. C'est pas juste de l'imitation. Il y a quelque chose qui rappelle un petit peu l'esthétique médiévale des reliques. Comment à partir, ça c'est quelque chose que Patrick Boucheron vous connaissez bien. Hein, comment à partir d'une relique, on en fabrique une autre et puis on en fabrique une troisième.
Création continuée comme ça,
création
par la variance.
Continuité, oui. Et peu importe au fond que elle soit véritablement la vraie.
Oui, c'est ça. Bah, écoutez, alors, on peut le dire effectivement avec le Moyen-Âge, mais si on en croit Mathieu Pot-Bonneville, le directeur du département culture et création de Beaubourg, qui nous envoie des cartes postales, on peut aussi, je pense, le dire à partir de la culture populaire et puis notamment des séries.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, à l'approche des derniers numéros de la saison pour Allons-y voir, j'imagine que deux préoccupations vous assaillent. D'une part, veillez à ce que cette série de rendez-vous dominicaux ne saute pas par-dessus le requin. D'autre part, vous efforcez de faire en sorte qu'une barbe leur pousse. Ne me regardez pas comme ça, Patrick, je vous explique. S'il y a un trait fascinant dans l'histoire des estampes japonaises, c'est la manière dont s'y introduit au cœur de l'acte de création une logique sérielle. D'une part, la technique de gravure et d'impression autorise leur production et leur diffusion en série limitée et précieuse bien sûr. D'autre part, les maîtres de l'estampe vont faire de la sérialité le principe organisateur de leur travail. 36 vues du mont Fuji pour Hokusai, pour Hiroshige, 53 stations du Tokaido ou 100 vues de Edo. À la fois collection du point de vue de son sens et multiple du point de vue de sa matérialité d'œuvre, l'album d'estampe vient faufiler entre ses pages non la continuité d'une trame narrative, mais d'autres façons de faire de l'un avec du divers. Tantôt, c'est la variation intérieure d'un motif dont l'œil s'émerveille des incarnations disparates. Le cône du mont Fuji, d'une estampe l'autre, immense ou réfugié dans un coin de l'image. Tantôt, c'est un programme dont il s'agit de réaliser exhaustivement les étapes, les 69 stations du Kisokaido. Cet entrecroisement entre multiplicité et reproductibilité, cette manière de créer des séries en série, va avoir des effets bouleversants sur la rencontre entre art d'Orient et d'Occident, des tournesols de Van Gogh aux cathédrales de Monet, de celles-ci à leur relecture industrielle par Rauschenberg ou aux sérigraphies de Warhol, inscrivant la sérialité comme ressource et comme problème au cœur des pratiques artistiques modernes et contemporaines. Le souci, c'est que nos catégories esthétiques sont mal ajustées à cette affaire. Elles tendent vers la recherche du chef-d'œuvre, de l'unicum, alors que la logique sérielle invite à ressaisir chaque élément dans le jeu des combinaisons qui le bordent. Lorsque, comme des surfeurs, nous admirons la vague Gdokuzai, nous risquons d'arracher cette page à l'album. Or, si l'on cherche à évaluer des séries pour elles-mêmes, on peut avoir profit à regarder ailleurs. Car, pendant que la mise en série saisissait les formes les plus hautes de l'art, elle étendait son règne sur le divertissement populaire. Tant au Japon, pensez aux 1120 épisodes de l'anime One Piece, qu'en Occident. C'est dans ce domaine, par exemple, que l'expression « jump in the shark », littéralement « sauter par-dessus le requin », est devenue proverbiale. Elle désigne le point de basculement où une série télévisée perd son principe organisateur, lorsque l'inspiration à bout de souffle des scénaristes l'a conduite à se prolonger artificiellement dans des péripéties de plus en plus éloignées de son assiette initiale, à l'image de l'épisode d'ouverture de la cinquième saison de la série Happy Days, qui vit son personnage principal, Fonzie, effectuer un saut à ski, en ski nautique, au-dessus d'un bassin où nage un squale mangeur d'hommes. Je l'admets, c'est un autre genre de vague. Réciproquement, To Grow a Beard salue la courbe ascendante d'une série initialement peu remarquable, comme la deuxième saison de Star Trek The Next Generation, où le commandant Riker se laissa pousser la barbe. 5 ans avant le premier épisode de Happy Days, Michel Foucault le notait dans la préface de L'archéologie du savoir. Évaluer une série suppose, je le cite, de découvrir les limites d'un processus, le point d'inflexion d'une courbe, l'inversion d'un mouvement régulateur, les bornes d'une oscillation, etc. C'est un changement de paradigme qui s'impose là, Patrick. Et la pop culture a peut-être quelques outils à fournir à l'histoire de l'art. En attendant, puisse votre barbe pousser dru et faites gaffe aux requins.
Je suis à ses pieds.
Christophe Samouraï, 1976, on vous garde sur France Culture, vous écoutez bien, allons-y voir, et nous regardons justement des femmes samouraïs sur des estampes. Alors Mathieu Pot-Bonneville le dit avec Michel Foucault, l'original et le régulier, et vous, Michael Luken, cette sérialité, vous le dites avec le philosophe Masakazu Nakai, c'est-à-dire cette notion d'imitation. J'aimerais bien qu'on y revienne.
Alors, je reviendrai dans un instant, mais avant, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Il est vrai que cette dimension sérielle, le côté multimodal, multimédial de l'art japonais est réel, est très présent et qu'il a énormément marqué les esprits ici en Occident, en France en particulier. Le phénomène du japonisme, vous le disiez tout à l'heure, il fait écho. Mais il faut bien avoir conscience que dans le contexte japonais, ce n'est qu'une partie de l'esthétique.
Oui.
Et la dimension unique, sacrée, voire fétichisante qu'on peut attribuer à l'œuvre d'art en Occident, existe également au Japon. Et comment dire, le fait que parfois on passe directement de l'estampe au manga, ce qui se comprend, le gouvernement japonais d'ailleurs fait le lien souvent, fait qu'on oublie souvent le fait que entre les deux, les Japonais ont une fascination pour des œuvres uniques, qu'ils ont regardé l'art occidental et qu'ils aimeraient, et je le dis de manière répétée et forte, ils aimeraient qu'on s'intéresse à leur art moderne, à leur art où on met de la peinture en avant, de l'œuvre unique en avant, ce que l'on fait très peu.
Alors justement, on va y venir et merci d'accélérer le mouvement vers cette question qui est très importante, Michael Luken, on va y venir parce que votre travail d'historien, c'est bien au fond de dépayser notre rapport non seulement au Japon, mais à l'exotisme, de pas simplement se regarder le Japon, mais essayer de comprendre comment eux-mêmes ont pu user de différentes références. Par exemple, dans le Japon grec, vous montrez comment très librement, au fond, ils usent du référent grec, finalement pour ne pas être chinois, c'est-à-dire pour, d'une certaine manière, se séparer d'une imitation inévitable, celle qu'on les oblige, au fond, à développer.
À développer, et par conséquent, on va regarder ailleurs, en l'occurrence dans le monde méditerranéen, pour éviter cette Extrême-Orient, cette Chine en l'occurrence, à laquelle on les assigne. Donc il y a dans le phénomène d'imitation quelque chose qui est au fond extrêmement créatif. On a tellement assigné les Japonais à l'imitation, à la singerie à une époque, que on est resté beaucoup sur cette image-là, que ce soit de manière négative ou positive. Et j'essaye de mettre quand même aussi en avant le fait que il y a un véritable goût pour une forme de sacralité, d'unicité de l'art au Japon et qu'elle demande à être reconnue également.
Alors, Jean-Christophe Hubert, dans votre exposition dont on parle, Rêve de Japon, vous partez de là, vous partez de ce qui est connu, c'est-à-dire le japonisme en particulier, puisqu'on parle d'image de la femme, des femmes dans l'art japonais. Vous avez quelques magnifiques pièces d'Utamaro, qui est un artiste à part, selon vous, qui traite de choses qui sont plus facilement regardables, je dirais, pour les Occidentaux, enfin qu'ils peuvent recoder plus aisément, comme Toulouse-Lautrec notamment, parce que, encore une fois, ce sont des servantes, sont des femmes au travail de la maison, et là vous voyez comment le rapport du japonisme, il est direct, c'est une imitation là pour le coup, mais une imitation par l'Europe.
Ah oui, tout à fait, là c'est une imitation puisque c'est, on le voit très bien chez Utamaro, il y a ces jeux déjà de scènes quotidiennes qui met en scène ces courtisanes qui sont en train de lire, qui sont en train de se coiffer avec une nuque dénudée, qui est une partie assez érotique au Japon. Et puis alors, on voit ces magnifiques jeux de miroirs, ces regards croisés que l'on va retrouver de manière presque identique dans les séries. Je pense à la série Elle, par exemple, de Toulouse-Lautrec. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une imitation. Et puis, je pense que c'est cette composition, puisque c'est vraiment là pour moi, le point essentiel pour ces artistes français et même au-delà, de ces compositions qui vont vraiment avoir ces codes, qui vont être reproduits comme ça de manière assez systématique par ces artistes. Même si quand Toulouse-Lautrec regardait une estorbe d'Outamaro, ben, il y avait des choses bien plus complexes qu'il ne savait découvrir. Est-ce que c'était une courtisane? Est-ce que c'était une servante? Est-ce que c'était une... Voilà, il y avait des codes que vraisemblablement les artistes français, européens n'arrivaient pas à décoder.
Et puis évidemment, il y a Van Gogh. Écoutez ce qu'en disait Marc Restellini sur Arte en 2018.
Van Gogh, quand il va peindre cette vue d'un verger en 1888, va encore une fois s'inspirer d'Hiroshige. En prenant cet angle qui va lui rappeler un certain nombre de vues qui sont exactement les mêmes chez Hiroshige. Un angle de jardin dans lequel il y a un arbre à côté duquel il y a une maison. La concordance entre cette œuvre et un certain nombre d'œuvres d'Hiroshige est absolument incroyable, tellement la proximité de sujets, de formes, de perspectives est identique. Encore une fois, Van Gogh, quand il est dans le Midi, en 1888, il est dans le Midi, pour lui, il est au Japon. Donc chaque angle, chaque axe qu'il choisit pour peindre un paysage est en rapport avec le Japon et avec Hiroshige.
Dans un livre que vous dirigez avec Sophie Bache, le néo-japonisme 1945-1975, et qui est tiré d'un colloque au Collège de France, Michael Luken, vous écrivez ceci. Le japonisme des impressionnistes émerge dans une France défaite et revancharde. Impression Soleil Levant date de 1872, on l'a dit. Le japonisme de l'abstraction gestuelle dans une France à moitié victorieuse, à moitié occupée. Les bases américaines ne ferment qu'en 1958. Dans les deux cas, le Japon a constitué un motif de rebond, une extériorité salutaire pour tenter de répondre positivement à un sentiment de vulnérabilité. Alors là, on est évidemment sur une toute autre histoire, hein, celle de ce néo-japonisme moderne d'après 1945, qui, au miroir duquel l'art français, en l'occurrence, dit non pas sa gloire mais ses faiblesses.
Oui, c'est vrai, vous le résumez de manière habile. La France de 1872 arrive à trouver dans le Japon, dans les estampes, mais aussi dans les peintures de type ukiyo-e, un vocabulaire qui lui permet de se renouveler complètement et par conséquent de briller de mille feux à travers le monde. En 1945, l'affaire est tout autre.
Ah oui.
Et la France se rend compte que les États-Unis sont maintenant ceux qui sont les plus à même de voir la société japonaise et le développement de l'art japonais, puisqu'ils sont présents et que les Français sont quasiment absents, eux. Et il va y avoir comme ça tout un jeu en triangle entre, d'une part, le monde de l'art japonais, le monde de l'art américain, le monde de l'art français. Et c'est très intéressant de comparer la façon dont les peintres abstraits français, je pense à de Gotteg, je pense à Mathieu, je pense à Soulages, vont se servir du Japon à la fois pour renouveler leur mode d'expression, mais aussi pour contrer d'une certaine manière l'Amérique triomphante, Pollock, Motherwell, qui eux aussi regardent du côté de l'Extrême-Orient.
Japon, t'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. Ah. Une viking toute nue dans Stockholm. Et du sexe qui sent bon, le cadom. L'aquavite pour requin qu'est l'homme. Suède, t'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. Ah. Un béret sur la tour Eiffel. Du serait à l'arc-en-ciel. Poudre pour qu'a perdu ses ailes. La France n'est pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. Ah. Président Carver pour le foie, une mafia sans un Sinatra. Des Manson et des Lolita, you est-ce que pas tout à fait ah. T'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. Ah. Hey.
L'avez-vous reconnu? C'était Alain Bachung, 1977, Kimono. On parle de cette belle et farouche guerrière qui est sur cette superbe estampe que nous regardons depuis trois quarts d'heure maintenant dans Allons-y voir, Tomoe Gozen et Michael Luken. L'image de cette guerrière, un peu, on l'a vu, apaisée, affadie au fur et à mesure du 19e siècle, elle fait un grand retour, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Elle fait en effet un retour, mais assez tard dans la Seconde Guerre mondiale. Hein, au début, les autorités japonaises mettent plutôt l'accent sur la femme qui va être soutien de l'homme qui part au combat. Elle va ensuite mettre l'accent sur la femme qui ne pleure pas le fils mort ou le conjoint disparu. Et c'est vraiment à la toute fin de la guerre qu'on va commencer à revoir, donc 43, 44, 45, des figures un peu comme celle-là, mais cette fois avec une dimension véritablement réel de mobilisation des femmes, à une époque où on les entraîne à la lance au bambou.
Ouais, hein, ouais.
Et en particulier, une qui est très connue.
C'est Shizuka, c'est ça?
Shizuka de Uemura Shoen, hein, qui date de 1944, où on voit une... qui d'ailleurs est reprise, en tout cas, on voit que l'artiste a regardé, c'est une femme, hein, l'artiste qui a peint cette œuvre, elle a regardé le travail de Hokusai, hein, et on voit donc une peinture avec une jeune femme assise, mais on aperçoit le sabre qui pend à ses côtés.
Ah oui, au fait, les femmes, elles sont peintres également. Il y en a en tout cas au XVIIIe siècle.
Ah, des femmes peintres, oui. Yamazaki Ryujo, il y a la fille de Hokusai, bien sûr. Il y a toujours eu des femmes, hein. Il y en a peu, mais il y en a toujours eu.
Alors, cette coupure de 1945, elle est importante, Michael Luken, vous avez beaucoup travaillé sur le Japon en guerre, parce que, d'abord, elle sépare quand même le manga première manière du manga deuxième manière, au fond, et puis par la violence. Et justement, ce néo-japonisme, il reprend après 1945 sur d'autres bases, mais votre travail l'arrête en 75. Voilà, là où on entend Alain Bachung ou Christophe. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe autre chose, c'est-à-dire une sorte de...
On retombe sur l'exposition de Rueil Malmaison, puisque... Il me semble qu'autour de 75, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît. Bien sûr, il y a des continuités. De toute façon, l'estampe ne disparaît pas en 45. Elle se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Notre émission le montre. De la même manière, cet art très structuré autour du signe, de la coupure, du geste un peu radical comme de Gotex, Soulages, etc., qui regarde le zen, etc., ne va pas disparaître. Mais c'est vrai qu'à partir de 75, on voit...
c'est le japonais. De Goldorak.
C'est le japonisme de Goldorak.
Du Club Dorothée, quoi.
C'est ça, c'est l'animation. Puis, un peu plus tard, le jeu vidéo. Puis, dans les années 90, le manga. C'est récent, en fait,
ce phénomène. Hein. Et ça, Jean-Christophe Hubert, comme je l'ai dit au début de cette émission, vous n'avez aucun mépris pour la culture populaire. Bah, vous le prenez hardiment dans votre exposition.
Alors, bien sûr. Chaque exposition, on s'entoure quand même de spécialistes ou de gens intéressés par le sujet. Donc, c'était pas mon cas. Je n'étais pas un grand fan de manga. C'est pas un média qui m'a interpellé quand j'étais plus jeune. Mais effectivement, cette découverte, qu'on vient très bien de le dire, hein, là, c'est le regard de l'historien de l'art qui regarde ces planches originales qu'on a à l'exposition. C'est le graphisme. est totalement exceptionnel. On a vraiment des compositions aussi qui rappellent cet art classique japonais, ce côté instantané, ce rôle du regard, ce rôle effectivement des cadrages que l'on retrouve vraiment de manière exceptionnelle dans les mangas. Donc c'était, je pense, effectivement dans ce rêve de Japon, hein, puisqu'on commence avec effectivement ces séries qui sont extrêmement diffusées, que ce soit les vues du mont Fuji, que ce soit la rue les étapes du Tokaido, mais effectivement ce rêve de Japon se prolonge aujourd'hui parce que l'engouement du manga, et on voit effectivement de tous ces jeunes qui viennent à l'exposition privilégiés par la vision du manga.
Sauf que vous le montrez, Michael Luken, ce rêve de Japon, il n'est pas spontané, il est aussi d'une certaine manière inspiré par le soft power japonais, celui-là même qui tire un trait, sinon d'union, du moins de destination, entre les estampes et le manga.
Oui, et du reste, ça c'est une vieille habitude du gouvernement ou de l'État japonais de façon générale d'utiliser les médias plastiques pour faire sa communication internationale. Il y a une véritable diplomatie de l'estampe qui se met en place au Japon à partir du XXe siècle, qui va durer tout le siècle, et qui ensuite prend le relais sous la forme de l'animation, du manga à partir de 2000, quoi.
Et si vous résistez à cette idée, c'est parce que, encore une fois, comme historien, vous insistez beaucoup sur la cassure de la Seconde Guerre mondiale, et qui est d'ailleurs si fondamentale, d'ailleurs, dans l'industrie du manga.
La cassure de la Seconde Guerre mondiale est en effet importante, mais ce qui est évident aussi, c'est que avant que les autorités s'emparent des phénomènes artistiques, y a des artistes qui travaillent en amont et qui eux-mêmes voient que l'estampe, c'est vraiment très intéressant, pendant des décennies, on l'a mis de côté, c'était considéré comme un peu la culture de derrière, on dit en japonais, urabunka, en particulier les shunga, les estampes érotiques. Pendant des décennies, on ne les a pas montrés.
Eh bien, voilà, donc là, on revient d'une certaine manière aux origines de votre passion, Marie Houlès. Vous avez dit au début de cette émission que c'est par le manga que vous êtes arrivée à l'estampe. Ben, d'une certaine manière, Tomoe Gonzen, notre héroïne du jour, elle est aussi présente dans toute cette culture populaire, dans les mangas, dans les jeux vidéo, dans les dessins animés.
Oui. Et c'est d'ailleurs dans un manga à succès des années 90, de la fin des années 90, Samurai Deeper Kyo, que j'ai pour la première fois vu Tomoe Gozen, puisqu'elle est un personnage, un antagoniste, qui affronte les héros assez tard dans le récit. Et à ce moment-là, je me suis interrogée, mais qui est cette femme ? Qui est cette femme ? Et c'est à ce moment-là où... ça m'a ouvert vraiment la porte à beaucoup de choses. Ayant été une grande consommatrice de manga, c'est comme ça que j'ai réussi à aborder beaucoup d'aspects de l'histoire du Japon et à en apprendre davantage sur ses héros et surtout sur ses héroïnes.
Et même si ce n'est pas elle explicitement, cette imagerie de la guerrière dans le manga aujourd'hui, bien sûr qu'il puise dans l'imaginaire dont on a parlé.
Oui, et c'est ce même imaginaire qui va inspirer aussi les jeux vidéo, les dramas historiques, les films, et en fait plein d'aspects de la pop culture d'aujourd'hui.
Kill Bill, bien sûr, Kill Bill. Voilà, quand on dit samouraï, quand on dit sabre, quand on dit la neige qui tombe, Kill Bill, le grand duel. C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Marie Houlès, Jean-Christophe Hubert et Michael Luken. Les références de vos livres et de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Lilou Maupetit, à la prise de son Noé Chaban et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.